Et bonjour, bienvenue dans Du poil sous les bras, ça va commencer dans un instant, c'est une émission pour s'armer intellectuellement, pour lutter contre toutes les formes de domination. Et oui, parce que s'armer intellectuellement, c'est important, c'est apprendre, comprendre, réfléchir, écouter, c'est muscler nos neurones pour combattre ce qui nous oppresse, c'est penser nos actions, nos choix, penser nos corps politiquement, penser nos genres, nos forces, penser au rôle qu'on nous assigne dans la société et penser à ce qu'on voudrait nous faire croire. Penser tout court en fait, parce que ça permet de savoir pourquoi et pour qui on s'épile par exemple, ou pourquoi on ne s'épile pas, ou pourquoi on s'épile parfois, un peu, beaucoup, pas du tout, peu importe. Peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on décide, l'important c'est de le faire en conscience, comme on fait un enfant par exemple, ou comme on nous interdit parfois d'en faire à nous, femmes qui ne sommes pas accouplées, à un mâle dominant. Ouh, ça sent la PMA à plein nez cette émission, non? Allez, c'est parti pour Du poil sous les bras, une petite heure comme d'habitude avec une grande invitée. Elle s'appelle Caroline Mécari, elle m'impressionne un peu, je ne sais pas si c'est parce qu'elle est avocate et qu'elle est toujours bien coiffée ou parce qu'elle est spécialiste en droit des familles ou experte sur les questions relatives aux droits des personnes LGBT. Je ne sais pas. Ce que je sais en revanche, c'est qu'elle est le genre de femme qui m'inspire beaucoup de respect parce que ses mots, ses actions, ce qu'elle fait dans sa vie et ce qu'elle fait de sa vie a une résonance particulière dans la mienne. Je dirais même que cela a un impact important sur ma vie et sur la vie d'autres femmes lesbiennes comme moi ou sur la vie d'hommes homosexuels, sur la vie de personnes trans, mais aussi sur la vie de toutes celles et tous ceux qui croient que l'égalité des droits, c'est plutôt une bonne chose et qu'il ne faut pas confondre les faits et le droit. Alors, en plein débat sur la loi bioéthique à l'Assemblée nationale, j'avais très envie que Caroline Mécari vienne nous parler PMA, GPA, etc., qu'elle nous aide à faire le tri parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur le sujet et que parfois, c'est pas mal d'écouter quelqu'une qui sait expliquer clairement de quoi on parle. Bien sûr, si vous êtes homophobe, tendance, catho, réac, et que vous préférez écouter votre évêque ou François-Xavier Bellamy prédire la malédiction qui va s'abattre sur nous, libre à vous. De mon côté, la bêtise humaine m'effraie bien plus que la colère divine. Alors aujourd'hui, essayons de lutter avec Caroline Mécari contre la bêtise de Bellamy, entre autres, sans se préoccuper de savoir si ça va plaire à Dieu, au pape ou à notre voisin de palier. Et dans tous les cas, c'est quand même plus utile de plaire à son voisin de palier qu'à Dieu ou au pape.
Du poil sous les bras.
La petite blanche dans du poil sous les bras.
Bonjour Caroline Mécari.
Bonjour.
Avocate au barreau de Paris et du Québec, spécialiste en droit des familles. Toujours spécialiste pour le droit des étrangers aussi, ou avant en tout cas c'était le cas?
Oui, j'ai commencé par faire beaucoup de droit pénal et de droit des étrangers pendant 10 ans, et puis ensuite par un concours de circonstances, eh bien, j'ai été amenée à défendre un homme qui avait la particularité d'être gay en 1996. Et ça, c'est le début, on va dire, de ma carrière pour, dans le champ des familles homoparentales.
Autrice, en tout cas aujourd'hui, de plusieurs ouvrages, dont des « Que sais-je » sur l'adoption, les droits des homosexuels, le PACS et l'homophobie, et depuis cette année, un « Que sais-je » sur la PMA et la GPA aux éditions du PUF, Presse universitaire de France, avec une préface de Serge Éphèse. Et c'est ce petit livre-là qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Alors commençons par la PMA. Du coup, la PMA, c'est quoi?
Pour la France, les PMA, donc les procréations médicalement assistées, ce sont toutes ces techniques médicales qui permettent de pallier l'impossibilité pour un couple hétérosexuel d'avoir un enfant. Et pour le droit français, ça va être l'insémination artificielle avec un donneur anonyme. Ça, c'est l'hypothèse où l'homme a des spermatocytes qui ne permettent pas la fécondation de l'ovocyte. Ça va aussi être la fécondation in vitro, c'est-à-dire cette technique qui fait que la fécondation ne va pas avoir lieu au sein même du corps, mais va avoir lieu dans une éprouvette où les médecins vont permettre la rencontre des spermatozoïdes avec un ovocyte. Et puis ça va aussi être le don d'embryons, c'est-à-dire ces embryons qu'on appelle surnuméraires. Lorsqu'un couple hétérosexuel fait plusieurs tentatives pour avoir un enfant avec des PMA, on fabrique plusieurs embryons et seuls un ou deux vont être implantés dans l'utérus de la femme et il va en rester quelques-uns qu'on appelle des embryons surnuméraires. Et bien ces embryons surnuméraires peuvent être donnés par ce couple à un autre couple hétérosexuel. Donc voilà, c'est cet ensemble de techniques pour le droit français.
Tu parlais de fécondation in vitro. On parle aussi beaucoup en ce moment de la FIV ROPA. Ça, c'est particulièrement intéressant dans le cadre d'une FIV pour un couple de lesbiennes.
C'est typiquement l'exemple d'une technique qui, aujourd'hui, n'est pas autorisée par la loi française et dont il n'est pas envisagé de l'autoriser par la loi française. Qu'est-ce que c'est, en fait ? C'est la possibilité pour un couple de femmes de voir l'une d'entre elles donner ses ovocytes pour que cet ovocyte soit fécondé grâce à des spermatozoïdes venant d'un tiers donneur masculin et que l'embryon qui va donc être conçu de cette manière soit ensuite implanté dans l'utérus de la compagne de la femme qui a donné ses ovocytes. Mais cette technique, qui par exemple est connue en Belgique, est inconnue du droit français et pour le moment, les députés, dans le cadre des discussions qui ont déjà eu lieu, ont refusé de proposer cette technique aux lesbiennes françaises.
Voilà. Alors, pour préciser aussi, on enregistre cette émission le 23 septembre, donc vraiment la veille du débat qui va commencer entre les députés à l'Assemblée nationale, même s'il y a eu déjà la discussion
Dans la commission spéciale, précédée elle-même d'une mission parlementaire sous l'égide du rapporteur Touraine, elle-même précédée de deux avis du comité d'éthique, d'un avis du Conseil d'État, des états généraux de la bioéthique, enfin toute une série de débats qui existent en France depuis maintenant plus d'une dizaine d'années.
Et d'ailleurs, tu parlais du Comité consultatif national d'éthique, ils ont rendu deux avis favorables.
Absolument. Le premier avis favorable remonte au mois de juin 2017. Avis favorable à l'ouverture des techniques de PMA telles qu'elles existent aujourd'hui pour les couples hétérosexuels à toutes les femmes, donc y compris les couples de lesbiennes, mais aussi les femmes célibataires. Et cet avis a été réitéré en septembre 2018 après que se soient tenus les états généraux de la bioéthique qui ont été l'occasion pour les citoyens de faire part de leur position, de leurs avis sur toutes ces techniques. Eh bien, en septembre 2018, le comité d'éthique a réitéré son avis favorable à l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, dans les mêmes conditions du point de vue du remboursement de la sécurité sociale que celui qui existe aujourd'hui pour les couples hétérosexuels.
Alors, dans le livre que tu as écrit, justement, il y a un retour historique sur la PMA, parce qu'on est là à discuter d'ouvrir la PMA pour toutes les femmes comme si c'était une grande nouveauté. Et en fait, tu expliques que cette technique de PMA, alors on n'avait pas les techniques qu'on a aujourd'hui, mais en tout cas, un jour, on a légiféré là-dessus. Mais avant cela, finalement, chacun ou chacune faisait un peu ce qu'il ou elle voulait. En l'occurrence, même des couples de femmes pouvaient tenter ces techniques-là et ce n'était pas puni par la loi puisque ce n'était pas encadré.
Oui, c'est-à-dire que les techniques, ces techniques médicales, elles ont émergé dans les années 70. La fécondation in vitro va apparaître en 1978 et le législateur français ne va légiférer qu'en 1994. Donc il y a eu toute une période où les centres de fertilité en France agissaient comme, entre guillemets, bon leur semblait. C'est d'ailleurs à la demande des médecins spécialistes de la médecine procréative que le législateur est intervenu. C'est-à-dire que les médecins voulaient qu'on leur donne un cadre légal pour intervenir et permettre à des couples d'avoir des enfants.
La problématique, ce n'est pas d'ouvrir la PMA aux couples de femmes ou aux femmes célibataires, c'est finalement de la réouvrir. En tout cas, on l'avait fermée à une époque. Et du coup, j'en viens à la question de l'homophobie sous-jacente à ces débats.
L'homophobie est quelque chose qui traverse la société française comme n'importe quelle société. Et quand nous sommes dans les années 1990 qui vont voir émerger ce débat autour de la légalisation des techniques de PMA pour les couples hétérosexuels, l'idée commune, c'est qu'une famille, ça ne peut être qu'un homme et une femme. Et donc, l'idée que l'on puisse permettre l'accès à ces techniques à des couples de femmes est quasi impensable. En revanche, pour les femmes célibataires, c'est beaucoup plus souple. Et ça n'est finalement que par la pression, notamment des religieux, que les PMA ne vont pas être permises pour les femmes célibataires.
Mais quand même, du coup, ce qui est intéressant dans ce débat, il y a beaucoup de choses intéressantes dans le débat dans la révision de la loi bioéthique, mais toi, tu l'expliques bien dans le livre, et on t'entend souvent parler ça, de l'importance du droit de mettre des règles de l'égalité pour toutes et pour tous, parce que c'est aussi un moyen de lutter justement contre l'homophobie et supprimer donc cette discrimination qu'il y a envers les couples de femmes. Elle a effectivement toute son importance au-delà de la question de la PMA. C'est-à-dire que moi, par exemple, en tant que lesbienne qui n'ai pas envie de faire une PMA, j'ai envie que cette discrimination soit levée pour que le message un peu subliminal qui passera dans les esprits et dans la société soit que finalement, un couple de femmes comme un couple d'hommes, comme un couple hétérosexuel, eh bien c'est pareil. Enfin, c'est pas exactement pareil, ça, on le sait, mais disons en tout cas en droit.
Bah, c'est-à-dire qu'il faut distinguer la multiplicité des familles qui peuvent exister, que ce soit des familles hétérosexuelles ou des familles composées de deux femmes ou de deux hommes, et la question du droit. Moi, j'ai la conviction profonde que si on veut lutter contre l'homophobie, la lesbophobie, il est impératif de lutter contre les discriminations légales. Et donc, ouvrir les PMA aujourd'hui aux couples de femmes et à toutes les femmes, c'est au fond abattre une différence de traitement qui n'a plus de fondement objectif. Pourquoi elle n'a plus de fondement objectif aujourd'hui, à la différence peut-être de 1994, c'est que la société française a vraiment grandement évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes ont une autonomie qui est beaucoup plus importante que dans les années 1994. Les aspirations individuelles ne sont pas les mêmes. Le fait que le législateur ait d'abord adopté le PACS qui a permis la première reconnaissance institutionnelle et juridique du couple d'homosexuels au sens de personnes de même sexe jusqu'à l'ouverture du mariage et de l'adoption font que au fond le fait d'être homosexuel est indifférent au regard du droit et cette égalité elle doit se poursuivre y compris dans l'accès à ces techniques médicales qui aujourd'hui sont donc réservées aux hétérosexuels mais qui en même temps il faut le rappeler ne soignent absolument pas leur infertilité pour deux raisons. Un homme infertile reste toujours infertile, hein, le don de gamètes ne va pas le rendre fertile et que par ailleurs dans 3 cas sur 10 pour ces couples hétérosexuels tout fonctionne bien. Physiologiquement, il n'y a pas d'infertilité pathologique, mais ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Et pourtant, on leur permet quand même d'avoir accès à ces techniques. Et donc, au fond, il n'y a plus à faire de différence entre une infertilité qui serait une infertilité pathologique et une infertilité que l'on pourrait qualifier de sociale. Cela importe peu. Ce qui compte, c'est de savoir si l'État français, la société française, est prête à aider tous les couples, indépendamment de leur orientation sexuelle, à fonder une famille. Et au fond, la réponse que le législateur va apporter, c'est oui, tout simplement parce que désirer un enfant, c'est toujours vraiment une très belle chose dans la vie de ceux qui souhaitent avoir des enfants, mais c'est aussi une belle chose pour la société tout entière, c'est-à-dire que ça participe de la pérennité de la société tout entière, donc de notre société.
D'ailleurs, tu insistes beaucoup là-dessus, sur le fait qu'il n'y a pas de droit à l'enfant. Il y a un désir d'enfant.
Il n'y a aucun droit à l'enfant. S'il y avait un droit à l'enfant, en réalité, un couple souhaitait adopter et qu'il ne puisse pas adopter parce qu'on ne lui confie pas un enfant, il pourrait faire un procès pour que l'État lui confie un enfant. En réalité, la question d'avoir ou pas des enfants, c'est avant toute chose la question du désir d'enfant. On a un désir d'enfant ou on n'a pas de désir d'enfant. Ça, c'est les gens qui souhaitent avoir des enfants, leur désir, rien ne les arrête. Moi, c'est ce que je constate. La question qui se pose à nous ensuite, en tant que société, c'est de savoir comment est-ce qu'on protège ce désir d'enfant pour les enfants. Je ne parle pas pour les couples, mais je parle vraiment pour les enfants. Et donc, c'est ça qui est important. Et je pense qu'aujourd'hui, la société française, elle est prête à admettre qu'un couple de femmes ou une femme célibataire peut procréer grâce à l'aide de la médecine et que pour protéger l'enfant qui va être conçu dans cette configuration, eh bien, le législateur va permettre l'établissement d'un lien de filiation directement et immédiatement à l'égard des deux femmes pour que justement cet enfant soit protégé par ce lien de filiation. Un lien de filiation, qu'est-ce que c'est ? C'est une protection juridique. C'est la transmission d'un nom, c'est l'exercice de l'autorité parentale, c'est aussi la possibilité pour l'enfant d'hériter. C'est donc une protection juridique. Mais un lien de filiation, juridiquement, c'est toujours une construction sociale. Donc, en effet, c'est comme pour l'adoption. Les parents adoptifs ne sont pas les géniteurs de l'enfant, mais néanmoins, ils sont légalement les parents. Pour un couple de lesbiennes, il y en a une qui va accoucher et l'autre qui ne va pas accoucher, mais légalement, elle sera à l'égal de celle qui a accouché sur le plan juridique.
J'aime bien quand tu dis le législateur va autoriser. Bon, qu'est-ce qui te donne justement cette confiance aujourd'hui ? Est-ce que c'est parce que, et tu le dis, tu as l'impression que la société, elle est complètement prête à ça ? Et en même temps, d'un côté, on a une société qui a l'air plutôt ouverte, et de l'autre, on a des députés qui parfois, eux, pour des questions soi-disant de morale ou d'éthique, hein, ça s'appelle la loi bioéthique, veulent s'opposer encore à ça. Et ce qui est intéressant aussi dans le livre, c'est le parallèle que tu fais entre justement la morale, l'éthique, et puis la loi. Et dans les deux cas, c'est des concepts qui vont évoluer, qui doivent évoluer. Donc effectivement, la morale aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a 50 ans.
Je ne crois pas que la question de l'ouverture des PMA soit une question de morale. En fait, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, 23 septembre 2019, tous les feux sont au vert pour que justement ces techniques médicales qui ne soignent pas l'infertilité puissent être utilisées par toutes les femmes, qu'elles soient en couple ou célibataires, dans un cadre législatif. Et quand je dis tous les feux sont au vert, c'est que autant lorsque, en 2012, peu avant l'élection de François Hollande, celui-ci n'avait pas inclus dans ses promesses de campagne l'ouverture de la PMA et seule sa porte-parole s'y était engagée. Et ensuite, on sait comment le débat sur l'ouverture du mariage civil a tourné avec vraiment la cristallisation autour de la manif pour tous contre ce progrès social. Donc, autant peut-être qu'à cette époque-là, tous les feux n'étaient pas au vert, mais autant aujourd'hui, tous les feux sont au vert. Pourquoi ? Parce que d'abord, toutes les autorités indépendantes qui travaillent sur ces questions ont émis un avis favorable. Qu'il s'agisse du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, avis favorable en 2015, ou du Défenseur des droits, pareil, avis favorable en 2015. Et puis ensuite, on a d'abord eu le premier avis du comité d'éthique en juin 2017, avis favorable. On a eu ensuite le rapport du Conseil d'État en juin 2018 qui, lui, explique que sur le plan juridique, il n'y a pas d'obstacle à une modification de la loi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun grand principe qui viendrait interdire de modifier le texte actuel pour permettre les PMA à toutes les femmes. Et puis ensuite, à nouveau, le comité d'éthique qui rend un avis favorable. Et là, c'est vraiment très important parce que le comité d'éthique, quand il rend ses deux avis favorables, l'un en juin 2017 et l'autre en septembre 2018, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il n'y a pas de problème éthique à l'usage, à l'utilisation de ces techniques médicales pour toutes les femmes. Et au fond, il ne fait que rejoindre les 14 pays qui, au sein de l'Union européenne, ont déjà ouvert la PMA aux couples de femmes. Et il rejoint aussi les 26 pays qui, au sein du Conseil de l'Europe, ont ouvert la PMA aux femmes célibataires. Donc, tout ça montre qu'il y a vraiment un mouvement de fond de la société tout entière, accompagné par l'opinion publique, qui à plus de 65% est favorable à ce que ces techniques soient utilisées par toutes les femmes. À cela s'ajoute évidemment l'engagement politique. Parce que pour qu'une demande sociale puisse devenir une loi, il faut aussi qu'il y ait un engagement politique. Et là, nous avons l'engagement politique d'un président de la République qui a mis à l'agenda le projet de loi qui va être discuté dès le 24 septembre à l'Assemblée nationale.
Alors, à t'entendre, on a l'impression que finalement, on ne voit pas quels arguments pourraient être opposés à l'ouverture aux couples de femmes et aux femmes lesbiennes des techniques de procréation médicalement assistée. Et pourtant, ça coince. Et justement, les arguments des opposants vont être de l'ordre éthique, même s'ils sont d'une éthique d'un autre âge, mais du type, notamment sur, par exemple, l'absence du père qui revient régulièrement et oui, qui est quelque chose qui pourtant commence à être bien déconstruit, même par des psychologues, des psychanalystes et autres.
Vous ne pourrez jamais empêcher dans une société qu'il y ait une frange minoritaire qui soit éminemment conservatrice et essentialiste. C'est-à-dire que l'on prenne le collectif de la Manif pour tous ou que l'on prenne la conférence des évêques qui puise son analyse du monde dans une conception religieuse de la société. En effet, pour ces gens-là, un enfant ne peut avoir qu'un père et une mère et pas autre chose. Souvenez-vous de l'écriture de saint Paul, la première épître aux Corinthiens, il faut un homme plus une femme pour en faire un troisième dans le cadre du sacrement du mariage. Le problème, c'est que cette conception religieuse, d'abord, elle n'est pas partagée par la société tout entière. Nous sommes dans une société française qui est très, très, très sécularisée. Et que donc, au contraire, les évolutions sociologiques de la famille nous montrent que ce modèle mythique, idéal, ne correspond pas du tout à la réalité de ce qui est vécu aujourd'hui par les familles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de très nombreuses femmes, de très nombreux couples de femmes vont déjà à l'étranger, ont recours, dans les pays où c'est autorisé, aux techniques médicales pour tomber enceinte et ensuite avoir un enfant et vivre avec cet enfant en France. C'est la même chose pour les femmes célibataires. Donc, on ne peut pas empêcher, en effet, les conservateurs de s'opposer à ce progrès social. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas les empêcher de s'opposer qu'ils ont raison et que le législateur va les écouter. Ils sont minoritaires, largement minoritaires. Nous sommes dans une société où, d'un point de vue institutionnel, c'est le fait majoritaire qui est important. Et donc, à l'Assemblée nationale, je n'ai pas le moindre doute sur le fait que la majorité va voter le texte ouvrant les PMA à toutes les femmes.
Parce que moi, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, justement, les discussions aujourd'hui sur cet argument fallacieux de l'absence du père, parce que les opposants donc, continuent d'attaquer sur ce sujet, et quand même de plus en plus de personnes font de la pédagogie là-dessus en expliquant que finalement, la problématique, ce n'est pas une absence ou pas d'un père, parce que le père, c'est aussi une construction sociale, mais c'est qu'il y ait un autre adulte, on va dire, référent dans la vie de l'enfant, un autre parent, et que justement, dans ce cadre-là, ben, un couple lesbien ou un couple d'hommes, il y a cette altérité et que, a priori, ça ne pose pas de problème.
Il y a de l'altérité tant, et c'est une vision absolument tronquée que de penser que dans un couple de lesbiennes, il n'y aurait pas d'altérité. Il y a évidemment une altérité qui est incarnée ne serait-ce que par la conjointe de la mère, mais qui pourrait aussi bien être incarnée par des tiers qui proviennent de l'environnement familial ou par des amis qui pourraient être extrêmement proches. Et c'est la même chose pour une femme célibataire. Une femme célibataire qui désire un enfant et qui n'a pas encore rencontré, on va dire, un prince charmant je le dis de façon un petit peu ironique, peut en effet souhaiter un enfant et donner naissance à un enfant, mais ça ne veut pas dire qu'elle va rester indéfiniment seule. Et de toute façon, elle ne vit pas sur une île déserte. Elle a son propre environnement et son propre entourage. Les études qui ont été faites depuis des décennies, que ce soit en Belgique, que ce soit en Grande-Bretagne, au Danemark, montrent que les enfants qui sont élevés par un couple de femmes ne vont ni mieux ni moins bien que des enfants qui sont élevés par des couples hétérosexuels. Être hétérosexuel n'est pas une garantie pour l'enfant. Quant aux familles monoparentales, il existe aujourd'hui en France à peu près 1,8 million de familles monoparentales. Et dans ces familles monoparentales, 85% ont pour chef de famille, entre guillemets, une femme. C'est-à-dire que le mec, il s'est barré, il n'est plus là, il n'est plus dans le paysage. Et que je sache, les enfants qui sont élevés par ces femmes qui ont du courage, d'abord, ce n'est pas forcément dans la douleur et dans la souffrance. Et globalement, ce sont des enfants qui vont bien. S'il y a des difficultés, cela peut être lié à d'autres facteurs qu'aux facteurs liés au fait que dans le foyer, il n'y aurait qu'un adulte.
Et alors, qu'est-ce qu'on répond dans ce cas à la ministre de la Justice, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, quand elle dit que, alors d'accord, ok, on pourrait ouvrir la PMA à toutes, mais attention, il ne faudrait pas que ça porte atteinte aux droits des hétérosexuels. Est-ce que ça, c'était une petite blague de la part de la ministre?
Alors,
ou est-ce qu'il y a un risque?
Non, je suis en profond désaccord. Tu es en train de parler, là, en fait, des modalités d'établissement du lien de filiation d'un enfant qui va être conçu avec un tiers donneur pour un couple de lesbiennes. D'abord, pour que les gens comprennent bien, il faut savoir comment ça se passe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les couples de lesbiennes, elles vont à l'étranger. Il y en a une qui tombe enceinte. Ensuite, elles reviennent toutes les deux en France. Et puis, celle qui est enceinte va donner naissance à un enfant. Sa compagne, si elle se marie avec la mère, va pouvoir adopter l'enfant. Donc, grâce à l'adoption, un lien de filiation va être établi entre l'enfant et celle qui n'a pas accouché. Ce lien de filiation va permettre à l'enfant d'avoir légalement deux parents. Donc, transmission du nom, exercice en commun de l'autorité parentale, et l'enfant va pouvoir hériter. Qu'est-ce qui va se passer dans le projet de loi lorsqu'il sera adopté en l'état du texte? Il est prévu que pour les couples hétérosexuels, on continue à faire comme aujourd'hui, c'est-à-dire on continue de permettre au couple hétérosexuel de faire comme s'il était le concepteur de l'enfant. Et donc, le mari de la femme qui accouche est père par la présomption de paternité. Et le compagnon de la femme qui accouche est père parce qu'il va faire une reconnaissance de paternité. L'enfant pourra rester dans l'ignorance de ce que, pour venir au monde, ses parents auront eu besoin d'un tiers d'honneur. Pour les couples de femmes, le système qui est proposé est différent. Le couple de femmes, avant d'avoir recours à la PMA et avant de consentir à un don d'un tiers, devra aller chez le notaire où elles vont d'abord consentir au don de gamètes et en même temps, elles vont faire ce que l'on appelle une reconnaissance conjointe anticipée. Une fois qu'elles ont fait ces deux actes, reconnaissance conjointe anticipée et consentement au don de gamètes, elles vont aller dans un centre de fertilité, il y en a 103 en France, donc elles vont bénéficier du don de gamètes, l'une d'elles va tomber enceinte, elle va accoucher. Et donc, au moment de l'accouchement, une fois que l'enfant va naître, celle qui est la plus diligente ira au service de l'état civil et elle remettra à l'officier d'état civil la reconnaissance conjointe anticipée pour que l'officier d'état civil puisse établir l'acte de naissance de l'enfant avec la mention de ses deux mères, celle qui a accouché et celle qui n'a pas accouché. Et donc, dès sa naissance, l'enfant, ou plus exactement dans les 5 jours de sa naissance, hein, c'est le délai légal pour établir un acte de naissance, l'enfant aura un acte de naissance avec la mention de ses deux mères. Donc, les deux femmes seront à égalité du point de vue du droit et l'enfant sera parfaitement protégé puisqu'il aura d'emblée deux parents. Il ne sera pas obligé d'attendre 1 an et demi pour qu'il ait deux parents sur le plan légal. Et donc, moi, je dis que ce système est discriminatoire pour les enfants d'hétérosexuels. C'est-à-dire que les enfants d'hétérosexuels, eux, ne pourront jamais savoir, sauf si leurs parents le leur disent, qu'il y a eu recours à un tiers d'honneur. Et donc, ce système n'est pas bon pour les enfants. Enfin, je suis pour une reconnaissance conjointe, anticipée, pour tous les parents qui ont recours à un don de gamètes, de manière à ce que tous les enfants qui sont conçus grâce à un don de gamètes puissent avoir le même mode d'établissement du lien de filiation. Et pour répondre à ta question, pourquoi est-ce que Belloubet a accepté ce système? Elle l'a accepté pour des raisons politiques. C'est-à-dire qu'il ne t'a pas échappé que d'un côté nous avions un président de la République qui est à droite, quoi qu'il en dise, et nous avons aussi un premier ministre, Édouard Philippe, qui est à droite. Et que donc, pour les gens de droite, en tout cas une partie de la frange politique de droite, il n'est pas question que l'ouverture des PMA puisse bousculer le mensonge qui a été organisé par le législateur en 1994 pour les couples hétérosexuels. Mais ce mensonge, ceux qui en pâtissent, ce sont les enfants qui ont été conçus par don. Et c'est pour ça que tu as différentes associations, comme par exemple PMA Anonyme, qui est présidée par Vincent Bresse, qui revendique la possibilité, enfin, pas à lui bien sûr, mais pour les enfants qui seront conçus plus tard, pardon, pour des couples hétérosexuels, le même mode d'établissement du lien de filiation pour que tous les enfants aient accès à leur histoire.
C'est là que je voulais en venir. Je voulais te faire prononcer ce mot de mensonge parce qu'on nous fait croire qu'effectivement, ça pourrait porter atteinte aux droits des hétérosexuels, mais quand elle dit ça, la ministre de la Justice parle d'un mensonge organisé.
Elle l'accrédite, absolument. Elle l'accrédite et elle continue de l'accréditer alors qu'il y a une manière très simple de faire qui est, en effet, tous les couples qui ont recours à un tiers d'honneur font une reconnaissance conjointe anticipée. Ça sécurise la filiation dès le moment où cette reconnaissance conjointe anticipée est effectuée. Et celle-ci va permettre l'établissement du lien de filiation au moment où l'officier d'état civil va rédiger l'acte de naissance. Et comme pour un jugement d'adoption ou pour une reconnaissance de paternité, on mentionne en marge de la copie intégrale de l'acte de naissance, reconnaissance conjointe anticipée, établie par maître X à telle date. Ce qui permet à l'enfant et à lui seul d'avoir accès à son histoire. En marge des actes de la copie intégrale d'un acte de naissance, vous avez de multiples mentions. Vous pouvez avoir la mention d'un changement de nom, d'un changement de prénom, d'un changement de sexe, si vos parents sont mariés ou pas, d'une reconnaissance de paternité ou d'un jugement d'adoption, si vous avez fait l'objet d'un jugement d'adoption. Et donc, pour l'enfant, c'est quelque chose qui est important parce que ces mentions lui permettent d'avoir accès à son histoire indépendamment de la volonté de ses parents. C'est-à-dire qu'en fait, les mentions marginales sur l'acte de naissance permettent à l'enfant d'avoir une autonomie par rapport à un accès à son histoire indépendamment de parents qui voudraient continuer à cacher le fait qu'ils ont eu recours à un don. Évidemment, cette question, elle se pose quasi que pour les couples hétéros. En réalité, on sait bien que pour les couples de lesbiennes, la question du mensonge, c'est une question qui ne se pose pas. Pourquoi ? Parce que les couples de lesbiennes ne font pas semblant. Elles ne vont pas raconter à leur enfant qu'elles l'ont conçu. Elles ne sont pas délirantes. Elles savent bien que dans la société, pour pouvoir concevoir un enfant, il faut avoir des gamètes masculines et des gamètes féminines. Et donc, elles racontent la vérité à l'enfant. C'est pour ça d'ailleurs que la quête, entre guillemets, des origines, elle ne vient pas des enfants de lesbiennes. Elle vient uniquement des enfants d'hétéros qui ont découvert à l'adolescence et parfois même beaucoup plus tard qu'en fait, leurs parents ont eu besoin soit d'un don de sperme, soit d'un don d'ovocytes. Et que ça leur a été caché parce que la législation actuelle, qui ne va pas bouger pour les hétérosexuels, permet ce mensonge d'État.
J'entends encore les « un papa, une maman, on ne ment pas aux enfants », scandé par la manif pour tous
c'est
à l'époque.
C'est savoureux, effectivement, quand on connaît les règles de droit applicables aux parents hétérosexuels qui ont besoin d'avoir recours à un don de gamètes et qu'en réalité, on sait que c'est l'état du droit qui leur permet de mentir à leurs enfants ou au moins de mentir par omission s'ils ne le font pas volontairement, c'est-à-dire de cacher la réalité de l'histoire de l'enfant, oui, c'est effectivement savoureux. Et évidemment, la Manif pour tous est tout à fait favorable à ça, tout en accusant les homosexuels de mentir aux enfants, alors que c'est une vue de l'esprit.
Du poil sous les bras.
Et bien sûr, j'ai profité de ma rencontre avec Caroline Mécari pour lui demander ce qu'elle pense des poils, pas les miens, mais les siens, les poils sur un corps de femme. Moi, j'aime les femmes, j'aime les poils sur les femmes. Mais elle...
Qu'est-ce que je pense des poils sous les bras ?
Ben, je pense que j'ai un rapport aux poils qui est le fruit vraiment de la société dans laquelle j'ai grandi. C'est-à-dire une société où une femme ne doit pas avoir de poils. Que ce soit sur les jambes, voire même sur les bras. Et donc, je reste marquée par le côté glabre des femmes, en fait. Voilà. Non, mais c'est vraiment extrêmement compliqué parce que c'est des choses qui s'inscrivent en soi, en fait. Le fait de... Enfin, une espèce de détestation du poil, en réalité. C'est-à-dire, une femme ne doit pas avoir de poils. Sinon, elle n'est pas... Et je demeure marquée par ça. Bon, peut-être parce que ce n'est pas la chose la plus essentielle dans ma vie. Et de ce point de vue-là, sur ce plan-là, je n'ai pas évolué. Ou en tout cas, c'est une vision du corps aussi. Qui est celle-là pour moi, en fait. Plutôt un corps globalement glabre. Pour les femmes.
That's it.
Avez-vous remarqué, dit ma voisine de palier, qu'entre nous deux tout concorde, j'ai le violon, vous les cordes, nos deux chats s'entendent bien, c'est un signe certain, vous tirez la couette à vous, je suis pas frileuse du tout, vous possédez, j'en suis sûr, le permis, j'ai la voiture, à quoi bon tergiverser, voulez-vous m'épouser? Qu'est-ce marions-nous, grimpez-nous sur mes genoux, c'est la première étape. Ça va pas plaire au pape. Loin vient de moi la folle idée, celle de vous déshonorer. Car je ne veux pas, voisine, faire de vous ma concubine. Je veux vous offrir mon cœur en tout bien, tout honneur. Je désire en société, quand il faudra déguster des petits fours sur la pelouse, dire voici mon épouse, et sans faire s'étouffer les nobles invités. Gay, gay, marions-nous, on me prend pour un voyou. Vous croyez que je suis pas cap, je dirais même au pape. Me voici bien affranchi, et sans faire de chichi. Vous me plaisez bien, voisine, j'aime vos façons byzantines. Mais avant les fiançailles, y a juste un petit détail. On peut unir sans remords la colombe et le veau d'or. Ça ne demande pas de cervelle, même pas besoin d'être belle. Mais faudrait pour qu'on volait pouvoir faire des bébés. Oh, gay, gay, marions-nous, quelle est cette histoire de fou? Y a quelque chose qui m'échappe, faudra demander au pape. Ma cousine, vous la connaissez, largement ménopausée. C'est vrai qu'elle n'est pas précoce, elle vient de célébrer ses noces. M'étonnera bien si elle pond un petit tardillon. Mais il faut faire annuler ce mariage dévergondé. Et tous ceux qui lui ressemblent, jeunes et vieux, qui vivent ensemble, quant aux bonnes sœurs, c'est pas mieux. Sont mariés au bon Dieu. Marions-nous, il y a des petits Jésus partout. Si un jour ça dérape, ça sera la faute au pape. On a essayé pourtant, mais nos efforts méritants n'ont rien donné, quoi qu'on fasse. Comme nos deux voisins d'en face, longtemps qu'ils essayent aussi, ils n'ont pas réussi. Voisine, lui dis-je alors, si vous en rêvez encore, si ça vous rend nostalgique, je vous épouse en Belgique. Là-bas ça se fait très bien, ce n'est pourtant pas loin. Gay, gay, marions-nous, on va faire des jaloux bachiches qui nous rattrapent. Vous pouvez le dire au pape. Gay, gay, marions-nous, passons-nous la corde au cou, et puis à nos agapes, on invitera le pape.
Du poil sous les bras.
Et donc, toujours avec Caroline Mécari, dans ton bureau d'ailleurs, avec une. Alors, j'ai en face de moi quand même. Une carte postale qui me dit « Faisons l'amour ». Je ne sais pas si tu l'as placée là comme une invitation pour moi. Je me dis que oui, ça me détend pendant cette interview. Avec une photo de toi, c'était une publicité pour l'action, contre le sida en tout cas. Voilà,
absolument. C'est... Voilà. Bon, bref.
Voilà. Il est bien, tu peux le laisser. Là, voilà, faisons l'amour. C'est un message tout à fait positif. On parle PMA, GPA avec toi. On va peut-être parler un peu de la gestation pour autrui aussi, en dire un mot, parce que alors là, c'est un sujet carrément évacué du débat.
Oui, absolument.
Aujourd'hui. Mais il n'empêche que gestation pour autrui, que toi, tu appelles maternité pour autrui, c'est une pratique séculaire. Ça a été pratiqué beaucoup. C'est pratiqué dans plein de pays. Et voilà, tu parlais des dons qu'on fait, les dons d'embryons, de gamètes. Ça, c'est des arguments intéressants à décrypter dans le cadre d'une GPA, parce qu'on nous oppose des arguments à la GPA qui sont de type indisponibilité du corps, non-commerce du corps, etc. Et tu démontes un petit peu, enfin pas un petit peu d'ailleurs, tu démontes beaucoup les arguments contre la GPA.
Alors d'abord, c'est quoi la gestation pour autrui ? Schématiquement, c'est le fait pour une femme de porter un enfant volontairement et en conscience pour, le plus souvent, un couple qui ne peut pas avoir d'enfant et parfois pour une personne célibataire. Donc, c'est de la gestation pour autrui qu'on distingue de la maternité pour autrui. La maternité pour autrui, en fait, c'est une femme qui va porter un enfant qui va être conçu à partir de ses propres ovocytes, alors que dans la gestation pour autrui, la femme qui porte l'enfant n'est pas génétiquement liée à l'enfant. Il y a eu un don d'ovocytes et donc elle est gestatrice. Mais bon, schématiquement, on parle globalement de GPA. C'est une technique de procréation médicalement assistée, comme le rappelle l'Organisation mondiale de la santé, ce que tout le monde oublie, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, puisque c'est une technique de PMA, hein, de procréation médicalement assistée, un certain nombre de pays l'ont parfaitement légalisée et l'ont parfaitement encadrée. Aujourd'hui, en France, elle n'est pas possible. Depuis 1994, le Code civil considère que si tu conclus un contrat de GPA sur le territoire français, donc si moi je veux porter un enfant pour un couple de Français en France, le contrat est nul. Cela veut dire que si jamais il y a une difficulté au moment où je voudrais remettre l'enfant au couple, si le couple ne veut pas prendre l'enfant, si je vais devant un juge, le juge va me dire « Il n'y a pas de contrat, vous avez accouché, vous êtes la mère, débrouillez-vous. » Et réciproquement, si moi, je ne veux pas remettre l'enfant au couple pour lequel j'ai porté cet enfant, si le couple va devant le juge, eh bien, le juge va lui dire « Le contrat n'existe pas, la femme qui a accouché est la mère, si vous, homme, vous avez reconnu l'enfant, vous allez être considéré comme le père, et donc vous serez comme un homme et une femme ayant eu un enfant ensemble. » Donc, c'est assez compliqué, en fait, sur le territoire français. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des GPA qui sont faites sur le territoire français, mais le nombre est certainement extrêmement, extrêmement faible. Et donc, impossible en France, hein, les couples vont à l'étranger. Ils vont dans les pays où c'est parfaitement légal. Et donc, ils ont des enfants, ils fondent une famille grâce à cette possibilité qui est légale dans un certain nombre de pays.
Alors, sur les arguments justement opposés contre ici et qui font qu'on n'a même pas lieu d'être parce qu'on nous dit, et notamment on nous assène plusieurs choses. D'abord, l'indisponibilité du corps, c'est-à-dire non, mais de toute façon, le corps, on n'en fait pas commerce, donc basta, c'est réglé. Ce qui est absolument faux, puisqu'il y a des produits du corps dont le commerce est parfaitement légalisé et ça ne pose de problème à personne. Et puis, j'aimerais aussi que tu viennes sur les arguments qui concernent finalement la femme et la maternité, c'est-à-dire ce qu'on nous rabâche, et pas d'ailleurs que pour la PMA, mais de toute façon, finalement, les femmes, elles ne sont pas tellement aptes à décider pour elles-mêmes. Il vaut mieux qu'on décide pour elles. On sait mieux, nous, les hommes, ce qui est bon pour les femmes.
Alors, les opposants à la GPA, ils viennent de plusieurs horizons. Hein. Il y a à la fois des conservateurs très, très virulents, mais aussi des féministes, ça ne vient pas que des hommes. Il y a aussi des féministes essentialistes, comme Sylviane Agacinski, qui est très, très opposée à la légalisation de la GPA. Et pour ce faire, elle invoque des pratiques légales dans des pays comme l'Ukraine ou l'Inde, qui n'ont pas les mêmes cultures que nous, qui ne voient pas la maternité comme nous. Mais au lieu de regarder ce qui peut se pratiquer, par exemple, au Royaume-Uni ou au Canada ou encore au Portugal. Moi, si je prends le Royaume-Uni et le Portugal, c'est pour prendre des pays qui sont proches de nous d'un point de vue culturel. Donc, les arguments qui sont opposés la plupart du temps, c'est effectivement ceux tirés du principe de l'indisponibilité du corps humain. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'en droit, un principe, eh ben, il y a toujours des exceptions. Et donc, il existe des exceptions à l'indisponibilité du corps humain qui vont du don du sang en passant par le don de gamètes, justement, ou le don d'organes. Et on pourrait envisager, en tout cas, ce n'est pas impensable d'envisager d'ajouter une exception comme qui serait le don de gestation, évidemment à condition que cela soit encadré par le législateur et que cela soit fondé sur quelque chose qui est essentiel, qui à mon avis est la pierre angulaire de toute légalisation de la GPA en France. C'est évidemment le consentement de la femme porteuse est un consentement libre et éclairé. Il y a l'autonomie de la volonté. Les femmes ne sont pas des mineures. Et si on considère, pour moi, ce n'est que la continuité de ce qui existe déjà aujourd'hui dans la liberté de procréer ou de ne pas procréer. Aujourd'hui, les femmes ont acquis une autonomie par rapport à leur propre corps. Elles ont acquis le droit de ne pas mettre au monde des enfants avec l'interdiction volontaire de grossesse. Donc ça, c'est la liberté de ne pas procréer. L'étape d'après, c'est la liberté de procréer pour autrui, mais en conscience, en toute autonomie. Et j'ai pour moi beaucoup de mal à comprendre une Sylviane Agacinski sur sur la problématique qu'elle essaye de mettre sur la table, comme si en évacuant le fait qu'une femme, je ne dis pas toutes les femmes, il ne s'agit pas d'imposer à des femmes de procréer pour autrui, mais une femme ou des femmes peuvent en conscience vouloir procréer pour autrui. Et évidemment, il ne s'agit pas de le faire 10 fois, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut s'entendre. Et d'ailleurs, toutes les femmes porteuses qui ont été interviewées et qui viennent de pays qui ont un peu le même type de culture et de culture que la nôtre, comme les femmes américaines ou les femmes canadiennes, expliquent très bien que dans leurs gestes, il y a vraiment la volonté d'aider un couple qui ne peut pas avoir d'enfants.
Et puis, il y a un autre argument que tu développes aussi dans le livre, qui est fondamental. C'est-à-dire que tu expliques que, de toute façon, l'absence de régulation dans ce domaine comme dans d'autres a toujours favorisé, favorisera toujours l'exploitation du plus faible par le plus fort. Donc, à un moment, peut-être mieux vaut-il encadrer.
Mon positionnement, il est vraiment extrêmement simple et il est tiré, au fond, de ce que je vois de tous ces couples que je défends depuis, en tout cas, les couples qui ont recours à la GPA depuis plus d'une dizaine d'années, c'est que je me dis, mais si on veut vraiment lutter contre ce que l'on pense être l'exploitation des femmes à l'étranger, enfin dans certains pays comme l'Inde ou l'Ukraine, encore que l'Inde aujourd'hui est fermée aux couples étrangers, voyons donc ces couples de Français, comment faire pour qu'ils n'aillent pas à l'étranger? La seule manière, c'est de légaliser en France selon nos principes à nous. C'est-à-dire principe de dignité de la personne, donc principe de ce que le consentement de la femme porteuse doit être libre et éclairé, il doit être encadré, principe et donc selon nos principes, selon nos valeurs, selon nos critères médicaux. Ce qui est extrêmement drôle, entre guillemets, c'est que le principal syndicat des gynécologues et obstétriciens, en 2009, a établi des règles, a défini des critères selon lesquels lui estime possible qu'une femme porte un enfant pour autrui, qui vont de l'âge de la gestatrice au fait qu'elle ne soit pas une primo-parturiente, c'est-à-dire une femme qui n'aurait jamais accouché. Il faut évidemment que lorsqu'elle a précédemment accouché, tout se soit bien passé, etc., etc. Donc, des médecins, il y a maintenant 10 ans, qui sont des spécialistes de la naissance des enfants, ont déterminé des règles pour que on puisse envisager la gestation pour autrui. Et d'ailleurs, il y a 9 ans très exactement, des parlementaires ont même été jusqu'à déposer 2 propositions de loi légalisant la GPA en France pour des couples hétérosexuels. Donc, aujourd'hui, en réalité, ce qui se passe dans la société française, c'est qu'on a un débat qui est confisqué d'une part par la Manif pour tous, qui a toujours utilisé la GPA comme un chiffon rouge pour essayer d'empêcher l'ouverture du mariage et de l'adoption en 2012 et 2013. Aujourd'hui, la GPA, elle est utilisée pour essayer d'empêcher l'ouverture des techniques de PMA aux couples de femmes. C'est exactement ce que fait la Manif pour tous. Mais très sincèrement, moi, je pense que la gestation pour autrui sera légalisée en France dans 10 ans. Mais il n'y a pas d'effet domino. Ce n'est pas parce qu'on a ouvert la PMA qu'on va légaliser la GPA. Non, on va légaliser la gestation pour autrui, à mon avis, tout simplement parce que les problèmes d'infertilité des citoyens vont aller grandissant, et notamment les problèmes d'infertilité chez les femmes vont aller grandissant, parce que nous vivons dans une société, dans un monde qui est extrêmement pollué, où nous avons affaire à des perturbateurs endocriniens qui ont des effets sur la fertilité et des hommes et des femmes. Et que donc, je pense que dans une dizaine d'années, la question va se poser tout à fait autrement. Pourquoi ? Parce que la question du désir d'enfant, c'est une question qui traverse l'humanité tout entière et que rien ne l'arrête et qu'on y a toujours répondu, soit en trouvant des petits arrangements à la manière de ce qui pouvait se faire il y a 2000 ans, lorsque je prends l'exemple d'Abraham et sa femme qui ne pouvant pas avoir d'enfants ont fait appel à l'aide de leur servante. Alors évidemment, peut-être qu'elle n'avait pas son mot à dire, mais ensuite, on sait très bien que dans toutes les sociétés, ont porté des enfants qu'elles ont mis au monde et ensuite elles l'ont confié à leur sœur ou à leur cousine qui était totalement stérile ou dans l'incapacité d'avoir des enfants. Donc il y a toujours eu des arrangements. La différence aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que on a les techniques médicales et que les techniques médicales permettent de passer, de ne plus en passer par des arrangements qui étaient très près des corps. Avec les techniques médicales, on a un usage qui est différent, en fait. Mais il n'est pas si différent que ça. Et puis, dans 20 ans, on aura ce qu'on appelle l'utérus artificiel et peut-être qu'on ne posera même plus la question de la GPA.
On a parlé d'Abraham, on a appris qu'Emmanuel Macron était de droite. Bon, ça, j'avoue, on le savait
c'est
déjà.
C'est pas une grande surprise.
C'est pas une grande surprise.
Pour quiconque a un peu de conscience politique, c'est une évidence.
Je ne vais pas te contredire là-dessus. En 2013, tu avais co-signé un texte avec Daniel Borio qui disait en substance « Moi, je ne veux pas vivre dans ce pays, je ne veux pas avoir à m'exiler, alors je veux qu'on vote le mariage pour tous à l'époque. » C'était ce combat-là. Aujourd'hui, la PMA risque d'arriver. La GPA, tu le disais, ce sera peut-être dans 10 ans, ce sera peut-être plus tard. Il y a autre chose que tu voudrais rajouter là-dessus. Tu penses qu'aujourd'hui, le droit en France reflète assez bien l'égalité entre notamment les couples homo, les couples hétéros, les femmes célibataires, les autres. Est-ce que ça se passe plutôt bien ou est-ce que tu aurais toujours un peu envie de t'exiler ?
Non, je vais pas m'exiler. La France est malgré tout un beau pays. Mais si je prends un peu de recul, c'est-à-dire si je regarde les 20 dernières années, je trouve que on a fait énormément de progrès du point de vue du droit. Du point de vue du droit, on atteint la quasi-égalité avec l'ouverture des PMA à toutes les femmes. On y atteint presque. Ça ne veut pas dire que toutes les questions sont résolues. Il y a des problématiques concernant les personnes trans qui ne sont pas résolues, qui ne sont absolument pas abordées par le projet de loi qui va être adopté. Il y a les problématiques de l'homophobie. Alors, je dis homophobie pour faire vite, bon, parce que j'aime pas dire on va prendre toutes les lettres pour dire tous ceux qui sont discriminés. Mais ça passe davantage. Dans les textes, on a un arsenal judiciaire, législatif, qui est suffisant. Ça passe vraiment par l'éducation, par la transmission d'un certain nombre de valeurs aux jeunes gens et aux jeunes filles. Et puis, sur la GPA, les choses ne sont évidemment pas réglées. En tout cas, la question de la reconnaissance des actes de naissance des enfants qui ont été conçus par GPA à l'étranger n'est toujours pas réglée. Alors, on attend un arrêt de la Cour de cassation, mais malheureusement, connaissant la Cour de cassation sur ces sujets, j'ai envie de dire qu'elle n'a jamais été très novatrice et que les arrêts qu'elle a pu rendre sont toujours au fond des appels à légiférer. Mais sur ce sujet, le législateur est très tremblant. On l'a encore vu récemment lorsque Nicole Belloubet a annoncé la rédaction d'une circulaire permettant de régler cette question donc de la reconnaissance de ces enfants nés de GPA. Et dès que ça a commencé à faire un peu de bruit, dans l'après-midi, j'allais dire, elle a fait machine arrière. Donc là, pour le coup, sur la GPA, il y a un manque de courage politique.
Un dernier mot avec toi sur Gisèle Halimi. J'étais en train de lire l'article du Monde, je ne serais pas là si, que le Monde a consacré à Gisèle Halimi. Je sais que c'était une femme, une figure importante professionnellement pour toi. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours des femmes comme Gisèle Halimi qui t'inspirent ? Est-ce que la relève est là, avec toi, avec d'autres ?
Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que quand j'étais adolescente, la seule figure d'avocate publique ayant une visibilité, c'était Gisèle Halimi. Donc, nécessairement, elle est une référence. Je ne dirais pas un modèle, mais une référence en ce sens que moi, je veux être une avocate comme elle. Après, je n'ai évidemment pas du tout le même parcours que celui de Gisèle Halimi, qui est un parcours absolument remarquable. Et certainement, je ne serais pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu Gisèle Halimi et toutes les féministes qui m'ont précédée. Ça, c'est incontestable. Et je pense que moi-même, je suis, une pierre sur ce chemin pour d'autres qui viennent après moi, pour toutes ces femmes qui sont des féministes, c'est-à-dire au fond qui ne demandent qu'une seule chose. Nous sommes comme vous, les hommes. Nous sommes au moins aussi intelligentes, aussi habiles, aussi. Et donc, nous avons les mêmes diplômes, si ce n'est parfois même davantage. Et donc, nous devons avoir accès à cette même visibilité, cette même occupation des emplois publics à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'une femme, on ne peut plus le dire, on ne peut plus concevoir que les femmes seraient inférieures aux hommes. Pour moi, c'est un discours qui serait absolument irrecevable. Ça ne veut pas dire que tout est gagné dans la société française, qui est loin d'être la pire, mais il y a encore beaucoup de combats pour que la reconnaissance d'une égalité, cette fois-ci non plus en droit, parce que l'égalité en droit, nous l'avons, mais dans les faits, dans les fonctions, dans les métiers, devienne effective. Et ça, je crains, en tout cas, je pense que c'est un combat qui est sans fin, en tout cas, en ce qui me concerne, certainement qu'il ne s'arrêtera qu'à ma mort.
Même après ta mort, le combat continuera sur ces questions-là. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à toi.
Du poil sous les bras.
Et donc, pour prolonger votre réflexion sur la PMA, la GPA et tout ça, eh bien, il y a le livre de Caroline Mécari aux éditions Presse Universitaire de France, PMA et GPA. Et du coup, eh bien, faites un enfant ou n'en faites pas, faites bien comme vous voulez et ne vous laissez pas dicter vos choix par la domination masculine, religieuse, politique ou médiatique. La chanson que vous avez eu le plaisir d'écouter pendant l'émission, eh bien, c'est « Gay, marions-nous », chantée par Anne Sylvestre. Et que vous dire d'autre ? Eh bien tiens, des nouvelles de mes règles, hein, pour reprendre les bonnes habitudes avant de se quitter. Mon cycle est de 26 jours, et je le précise parce que j'ai mis du temps à le savoir. Enfin, maintenant, ça fait un moment que je le sais. Hein. En fait, pour la petite histoire, mon cycle ne faisait jamais 28 jours. Mais comme à l'école, on m'avait appris qu'un cycle, c'est 28 jours, c'est comme ça, c'est officiel, c'est la norme, eh bien je me disais toujours, tiens, mes règles sont en avance. En fait, non. Mes règles sont toujours très ponctuelles, comme moi. Elles arrivent tous les 26 jours, et c'est comme ça. Voilà. Bon ben, en attendant Godot ou mes règles, je vous dis à bientôt à la radio dans Du Poil Sous les Bras. Du Poil Sous les Bras, une émission que vous pouvez retrouver en podcast sur le SoundCloud de La Petite Blanche.